Je ne sais pas comment commencer. Il y a déjà 33 ans, c'est en 76, que ma femme et moi nous nous sommes installés ici à Montreux. On habitait pendant 4 ans à Soulville. On avait 2 personnes pour commencer l'église. Et pendant les premiers 3-4 ans, on avait peut-être une dizaine. Finalement, j'ai un ami qui habite au Mai, un Français. Il m'a dit, Steve, il faut trouver un lieu, une salle pour se réunir. Donc, nous avons parcouru tous les rues à Montreux. On n'a rien trouvé. Finalement, il m'a dit, Steve, il faut construire. Et j'ai dit, comment construire? Moi? C'est pas possible. Il a dit, où est ta foi? Donc, on a trouvé ce petit morceau de terrain et Dieu nous a permis de construire ce bâtiment. Et c'est vraiment pour moi, c'est une joie de revenir. Une chose que je vais dire tout au début, ça fait depuis 33 ans que nous sommes en France, que nous avons vraiment prêché en France, en français. Et quand j'ai regardé dans mon sac, j'ai réalisé que mon carnet de notes pour ce message n'était pas là. Je pense que je n'ai jamais prêché sans notes. Hein. Mais voilà, ça fait la première fois. Et en plus, ma français est très limité. Et cet ordinateur ici a plus que 71 ans. Donc, souvent, il est bloqué. Alors, je ne sais pas ce qui va sortir de cette bouche ce matin. Hein. Mais de toute façon, je vais donner un petit témoignage. J'étais né au Chicago quand mon père était étudiant dans une école biblique, à Moody Bible Institute. Quand j'avais 5 ans, nous sommes déménagés au Nouveau-Mexique, où mes parents étaient missionnaires parmi les Mexicains. Et là, ma mère avait 10 enfants. En 11 ans, elle avait 10 enfants. Donc à l'âge de 32 ans, elle avait déjà 10 enfants. Et à l'âge de 16 ans, nous sommes déménagés au sud des États-Unis, sud-est, à Caroline du Sud. Et là, nous sommes inscrits dans une école chrétienne, un lycée, et puis dans une école biblique. Et en 76, nous sommes venus ici en France. On est allé en Afrique en 64, pendant quelques années, et finalement on est revenu en France. Et comme j'ai dit, nous étions ici jusqu'à 80, c'est en 80 que cette église a été construite. Et on en restait ici 4 ans. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre qui est venu prendre ma place et nous sommes déménagés à Toulouse. Et en 74, nous sommes retournés aux États-Unis. Et je vais vous dire pourquoi. Il y avait quelque chose pendant toutes ces années de ma vie qui me manquait dans la vie chrétienne. Et c'était vraiment une paix profonde et je n'étais pas vraiment un chrétien réjouissant. Et il y avait une raison très importante. Et je vais parler sur cette raison pendant un temps. Je suis retourné aux États-Unis et j'étais vraiment un homme abattu, découragé. J'avais vraiment la dépression. Et pour une seule raison. Et je veux que vous regardiez dans vos livres, dans vos Bibles, le psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui marche selon le conseil, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite une fois par semaine. Et qui médite quand? Jour et nuit. Et maintenant, regardez verset 6 du chapitre 3, la dernière partie. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Chapitre 4, versets 4 et 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Verset 9. Je me couche, je m'endors en paix. Verset, chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Je vais vous poser une question. Lundi matin passé, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous avez fait? La première chose, certainement vous avez pris la parole de Dieu, vous l'avez ouvert, vous vous mettez à côté, seul avec le Seigneur, et vous avez gagné la nourriture spirituelle. N'est-ce pas? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est ce que nous faisons tous les jours de nos vies, n'est-ce pas? Parce que c'est la chose la plus importante. C'est ce que vous avez tous fait, n'est-ce pas? Faut pas lever la main. C'est ça qui m'a manqué. Je n'avais pas la joie de Dieu tous les jours. Bien sûr, j'ai lu la parole de Dieu. Bien sûr, il fallait étudier parce que j'ai prêché la parole de Dieu. Mais je n'avais vraiment pas une relation intime avec mon ami fidèle et tendre. Je suis devenu découragé. J'ai péché. J'étais esclave même des pensées et des péchés. Et j'ai terminé par retourner aux États-Unis, trouver un travail. Et je suis convaincu que ça, c'est la raison. Je ne méditais pas jour et nuit. Je me noyais dans le monde. J'ai convoité les choses du monde. Je vais vous lire quelque chose. Il y a 15 d'années que j'ai acheté ce livre, pas celui-ci, en anglais, mais ça s'appelle « Les rendez-vous du matin ». Je vais vous lire quelque chose dans la présentation. Face à l'incertitude de la vie et de tous ces instants, il est bon de savoir qu'un rendez-vous existe, à la fois sûr et incertain. Quelle bénédiction il y a, dès le commencement du jour, de mettre à part un temps pour chercher à rencontrer Dieu, d'une manière particulière. Après tout, n'est-il pas ultimement l'auteur de tous les rendez-vous? Mais le Seigneur viendra-t-il? Acceptera-t-il de se manifester à notre âme? Tant d'obstacles semblent vouloir obstruer notre vue. C'est pourquoi il est bon de mettre un temps à côté, spécialement dans la perspective d'avoir un tel rendez-vous chaque matin. Un rendez-vous communique l'idée de détermination. de convocation, de préparation et d'anticipation. Il est bon de chercher la face de Dieu en étant animé par de tels sentiments. Lui-même se plaît à rencontrer sa créature, mais il n'est pas une sucette comme Matthieu sans réfléchir. Au contraire, il est l'objet des désirs les plus exaltés de l'être humain. Il n'est pas non plus question de procéder à quelques petits rites religieux en lisant une page de méditation par matin pour se sentir bien. Il n'y a nulle vertu faire des kilomètres afin d'apaiser une quelconque divinité outragée par notre indifférence. À quoi sert aussi d'avoir fait son petit truc avant de poursuivre la journée sans même penser à Dieu? En elle-même, une page de lecture n'a jamais sauvé quelqu'un. En revanche, elle en a certainement damné beaucoup. Les lectures quotidiennes sont un instrument. Elles font face avec réalisme à un fait de la vie, à savoir que nous ne sommes pas toujours d'humeur à entrer immédiatement dans la présence de Dieu. Bien souvent, il faut commencer par amorcer la pompe et mettre l'esprit en forme. Quoi de mieux pour cela que de réfléchir quelques instants sur un passage de la parole de Dieu. C'est là l'antichambre, la clé, la fenêtre qui ouvre de nouveau panorama et horizon. Ces méditations quotidiennes éclairent aussi le paradoxe du chrétien. Il vit au sein d'un monde maudit et d'une race déchue. Il est lui-même très loin de la perfection. Il n'en est pas moins un optimiste indomptable. Il ne sait pas comment va tourner ce rendez-vous matinal avec Dieu. Ce dernier se plaira-t-il à se manifester? Retiendra-t-il le sentiment de sa présence? Qui peut dire sur quelle puissance dans la prière ce moment de méditation débouchera? Dieu est présent. Cela est sûr, mais sous quelle forme? Alors, nous sommes retournés aux États-Unis pendant 3 ans, même que notre pasteur, presque tous les dimanches, nous a exhortés, chers amis, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, chaque jour, vous allez vous noyer. Ce n'est pas possible de réussir dans un monde perdu si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cœur, si vous ne méditez pas jour après jour après jour après jour. Après 3 ans, finalement, j'ai pensé, ce pasteur, il est sérieux. Il veut que nous lisions la parole. Je me souviens quand je me suis mis à genoux et j'ai demandé Dieu pardon, j'ai commencé à lire chaque jour le matin. Je me levais à 5 heures parce que je devais être au travail à 7 heures. Je me suis levé à 5 heures pour passer ces moments seuls avec mon Seigneur. Vous savez ce qui se passait? Quand vous commencez à lire, vous vous calmez devant Dieu. Vous prenez le temps de préparer vos cœurs et vous commencez à lire sa parole. Quelque chose commence à bouger là-dedans. Un cœur dur, un cœur complètement abattu commence à revivre. Je vais vous demander de regarder dans le livre de Lamentations, chapitre 3. Mais avant de lire, je veux retourner à verset 5, dans chapitre 4 de Psaume. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Mais la phrase avant cela dit, l'Éternel a tremblé et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Je me souviens, c'était après 4 mois d'être fidèle, lisant la parole de Dieu, que j'ai commencé un petit exercice avant de m'endormir, j'ai lu ce passage et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parlez en vos cœurs sur votre couche. Alors, j'ai pris quelques instants, je réfléchis sur la journée qui vient de se passer, la méditation, la parole que j'ai lue, et puis ceci, c'est ce qui s'est passé au travail. Et vous savez, le Seigneur a commencé à vraiment sonder mon cœur, sérieusement. J'ai livré le facteur et un matin, je suis, supervisor, mon chef m'a appelé dans son bureau et m'a dit, Steve, j'ai reçu un coup de téléphone aujourd'hui que tu as livré un paquet à 8 Henri Durand. Et elle a dit qu'elle n'a pas reçu un paquet. J'ai dit, ah oui, j'ai dû livrer le paquet. Et dans celle-ci, je me suis dit, ah, ce n'était pas 8 Henri Durand, c'était à 8 Louis Braille. Mais j'ai dit, oui, j'ai livré le facteur. J'avais menti. 3 minutes plus tard, mon collègue m'a demandé quelque chose. Et je ne voudrais pas dire la vérité, alors j'ai menti. Et cette nuit-là, en réfléchissant, je me suis pendé de mon lit, j'ai réalisé que j'étais vraiment un menteur. J'ai menti à mon chef, j'ai menti de temps en temps à ma femme, menti à mes enfants. C'était un problème très enraciné. Et Dieu a mis son doigt sur ce péché. Et je me suis sorti du lit. Je me mis à genoux. Je pleurais. J'ai demandé pardon à Dieu. J'étais choqué que j'étais un menteur et ça ne me faisait rien. Et même quand la Bible nous enseigne, les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais ce péché était tellement enraciné, j'étais esclave du mensonge. Ce n'était pas le seul péché que j'étais esclave. Mais c'est à cause de la lecture de la parole de Dieu quotidienne qui a commencé à tourner dans mon esprit, à mettre le doigt sur des péchés dans ma vie. Et il y en avait beaucoup. Et petit à petit, j'ai grandi. Et ça s'est commencé quand j'ai lu ce verset. Tremblez, ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pas d'excuse pour mon péché, pas d'excuse. Et puis quand j'ai déjà lu Éternel, chapitre 5, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. Et je regarde. Et je laisse la parole me convaincre. Et les choses commencent à changer. Mais avant ce temps, cause de la lamentation de Jérémie chapitre 3, nous voyons un homme, un prophète de Dieu, qui était complètement abattu. À partir du verset 1, « Je suis homme qui a vu la misère sur la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. » Vous savez, quand on vit dans le péché, c'est non sort, n'est-ce pas? Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os, il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Mon esprit était mort dès longtemps. Il a donné des pesantes chaînes, j'ai beau crier et implorer de secours, il ne laisse pas accès à ma prière, il a fermé mon chemin. Avec pierre de taille. Il a détruit mes sentiers. Et regardez verset 13. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de sainte, et puis verset 17. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. C'est ce que tout le monde cherche, n'est-ce pas? La paix et le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus espérance en l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez jamais passé par une telle épreuve, telle époque dans votre vie, où vous avez même perdu votre espérance dans le Seigneur. Souvent, c'est à cause du péché, mais ce n'est pas nécessairement à cause du péché. Pour lui, ce n'était pas à cause du péché. Il a dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà. Souvent des chrétiens arrivent dans un moment de leur vie où ils n'ont plus la paix, plus de bonheur. Même ils commencent à questionner, est-ce que Dieu vraiment m'aime? Mais heureusement, Dieu nous donne dans sa parole moins de retourner. Regardez dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Nous connaissons tous ce passage. Chapitre 4, verset 4. Nous connaissons ce verset, mais souvent ce n'est pas le cas. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. C'est absolument défendu. Être inquiet, c'est défendu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Oui, mais vous ne pouvez pas comprendre, je suis tellement éloigné du Seigneur. Il ne m'écoutera pas. Vous avez vraiment la joie ce matin. La paix qui surpasse toute intelligence. Dieu nous dit, par des prières, faites connaître vos besoins à Dieu. Quand nous lisons ce terme prière, ça veut dire tout simplement faire taire devant le Seigneur. Calmez-vous. Vous savez, quand vous avez des enfants sont en train de jouer dehors, ils rentrent dans la maison, ils crient, ils parlent, ils sont bouleversés, et finalement vous dites, alors, calme-toi, assieds-toi. Et maintenant, ce terme, la prière, maintenant, Dieu dit, parle-moi, je t'écoute. Faites connaître vos besoins, je t'écoute. Puis, il dit, par des prières et des quoi? Supplications. Qu'est-ce que ça veut dire, supplier? Je me souviens la première fois que j'ai vu en Afrique un vrai mendiant. Il est assis devant un tas d'ordures, un tas de déchets, et il est en train de fouiller, chercher à quoi manger. Et quand je marchais devant lui, il a fait, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Il était un suppliant. Et comme chrétiens, chers amis, nous ne sommes que des suppliants. Et ça, c'est ce terme-là. mon Dieu, je t'écoute, nous dit le Seigneur. Avec tes prières, fertile votre cœur devant moi. Et maintenant, parle-moi. Avec tes supplications. Deuxièmement, avec quoi? Des actions de grâce. Ça, c'est facile, n'est-ce pas? Quand vous êtes bien bouleversé, quand la vie tourne, quand vous êtes en peine, en douleur, quand tout ne marche pas bien. Merci Seigneur pour ces problèmes. Mais ce que Dieu nous dit de faire, en remerciant. Parce pourquoi? Parce que nous savons, si nous sommes des vrais enfants de Dieu, même si nous nous sommes éloignés de lui, nous devons remercier le Seigneur parce que nous savons que toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu. Et finalement, la Bible nous a dit quoi? Et la paix de Dieu. Croyez-vous ça? Vraiment? Ce matin? Je vais partager une petite circonstance personnelle dans notre vie. Il y a exactement 10 ans, le 17 septembre, le 09, que j'ai écrit dans mon journal un récit dans ce livre-ci. Je vais le lire, mais la raison, c'est parce que j'avais un fils, nous avons 8 enfants, et nous avons 28 petits-enfants. Je pense que c'est le dernier. Et j'aime bien les enfants. Et mes 28 petits-enfants. Mais j'avais un fils prodige, un fils qui m'a quitté la maison, qui a dit, papa, je m'en vais. Il n'a pas dit, je vais goûter au monde, mais c'est ce qu'il voulait faire. Il était rebelle, il est parti. Mais il avait une maladie très grave, et c'était le diabète enfantine, hein, je ne sais pas, mais où il devait avoir tous les jours au moins 3 piqûres. Et il a quitté la maison. Ça coûtait plus que 500 $ pour le médicament par mois. Et autant qu'il restait dans la maison, il avait l'assurance. Mais quand il quitte la maison, il n'avait plus l'assurance. Et j'ai dit, Samuel, si tu pars, comment est-ce que tu vas payer pour vos médicaments? Oh, je vais trouver un travail. Vous savez, les jeunes. Alors il est parti. Il est tombé, je ne sais pas combien de fois, dans un coma, à cause de ne pas avoir pris ses... Et vraiment, je suis tombé dans une période d'angoisse et d'agitation, vexation. J'avais peur pour mon fils. Même un jour, une nuit, j'ai un rêve et j'ai vu le Seigneur et Samuel devant lui. Et le Seigneur dit, « Samuel, retire-toi de moi, je ne te connais plus, allez dans l'enfer !» Et j'étais absolument pris d'anxiété. Et ce matin-là, j'ai lu, heureusement, je continuais de lire la parole de Dieu jour après jour, et j'ai lu celui-ci. Je vais vous lire. Le 17 septembre, ce matin-là, je me suis levé de bonne heure, j'ai commencé à lire ça avant de lire la lecture, ce que j'ai fait tous les matins. Et si vous voulez, regardez dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Je commence ce récit. Dans son désespoir, le pauvre père déçu se tourna des disciples vers leur maître. Son fils se trouvait dans la pire des conditions possibles et tous les moyens avaient échoué. Pourtant, le misérable enfant ne tardait pas à être délivré du malin lorsque le père obéit par la foi à l'ordre de Jésus. Amenez-le-moi. Maintenant, regardez chapitre 9 de Marc, à partir de verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme, la foule, des scribes et un homme. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet, et qui, en quelque lieu qu'il se saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, le dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le, moi. On le lui emmena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba à se rouler par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Nous devons venir à Jésus en tout instant, par la prière, en le suppliant, avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Je vais continuer cette lecture. Vous tous qui ont des enfants, ça m'a vraiment chauffé le cœur quand j'ai vu tous ces enfants ce matin. Les enfants sont un don précieux de la part de Dieu, mais beaucoup d'anxiété arrive avec eux. Ils peuvent s'avérer une grande joie ou une énorme amertume pour leurs parents. Le Saint-Esprit les emplira peut-être, ou l'esprit du mal les possédera. Quoi qu'il en soit, la parole de Dieu nous donne une recette pour la guérison de tous leurs maux. Amenez le moi. Oh, que nous puissions agoniser en prière pour eux alors qu'ils ne sont encore que des bébés. Le péché est déjà là, que nos prières commencent à l'attaquer. Nos cris devant le Seigneur en faveur de nos enfants devraient précéder les cris qui annoncent leur arrivée en ce monde de péché. Dès le jour de leur enfance, nous voyons les tristes signes de la présence de cet esprit muet et sourd qui est incapable de prier correctement ou d'entendre la voix de Dieu dans l'âme. Mais Jésus ordonne cependant, amenez-le moi. En grandissant, il se peut qu'ils iront se plonger dans le péché et qu'ils écumeront de haine à l'égard de Dieu. Alors, quand notre cœur est prêt de se rompre, nous devrions nous souvenir des paroles du grand médecin. Amenez-le moi. Ne cessez jamais de prier avant qu'il ne cesse de vivre. Aucun cas n'est sans espoir tant que Jésus vit. Le Seigneur permet parfois à ses enfants d'être acculés au fond d'une impasse afin qu'ils sachent par expérience combien il leur est nécessaire. En nous montrant notre impotence face à la dépravation de leur cœur, des enfants impies nous poussent à fuir vers notre vrai refuge pour obtenir la force nécessaire. Ceci est une grande bénédiction pour nous. Quel que soit notre besoin ce matin, qu'il soit un courant fort qui nous porte sur l'océan de l'amour divin, Jésus peut très vite faire disparaître notre chagrin et il se délecte à nous consoler. Hâtons-nous d'aller vers lui alors que lui-même se prépare à nous rencontrer. Je ne peux pas expliquer ce matin quand je me suis mis à genoux devant le Seigneur après avoir lu ça, après avoir me calmé devant le Seigneur et pour la première fois après avoir remercié le Seigneur avec des actions de grâce pour mon fils, j'ai levé les mains vers le Seigneur. Je l'ai relâché entre ses mains et j'ai dit, Dieu, voilà mon fils. Je ne peux rien faire. Il est à toi. À cet instant, la paix qui surpasse toute intelligence est tombée sur moi et j'en avais plus de soucis. Vraiment. Le fardeau est enlevé. Et j'ai vraiment expérimenté la paix qui surpasse toute intelligence. Je ne peux pas vous expliquer cette paix. Pourquoi? Parce que ça surpasse toute intelligence. Et pendant 2 ans, mon fils était toujours dans le monde, souvent à l'hôpital. Mais j'avais la paix parfaite. Et un jour, j'aurais arrivé, il y avait un tap à la porte. C'était mon fils. Et il est entré, il a dit, Maman, papa, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Peux-tu me pardonner? Et j'ai dit, absolument pas. N'est-ce pas? D'après tu nous as quittés, tu n'appréciais rien que nous avons fait pour toi. Allez. Ah non, pas du tout. Notre relation a été restaurée. Il aime le Seigneur aujourd'hui et il suit le Seigneur. Pourquoi? J'ai appris à ce jour-là à appliquer ces versets. J'ai demandé avec un cœur complètement donné à Dieu, en remerciant le Seigneur, parce que finalement j'ai compris. Nous savons que toute chose concourt à bien. Toute chose concourt à bien à ceux qui aiment Dieu. Avez-vous la paix ce matin? On va terminer en lisant quelques versets encore dans Lamentations chapitre 3. Heureusement, Jérémie ne restait pas dans le désespoir. Il a dit, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais heureusement, nous avons versets 21 à 25. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est que ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Le terme, elle se renouvelle une fois par semaine. Elle se révèle chaque matin. C'est pourquoi, chers amis, si vous n'avez pas cette habitude de vous lever de bonne heure, de prendre la parole de Dieu, de pouvoir les compassions de Dieu chaque matin,
Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, même quand mes enfants s'éloignent de moi, même quand je suis dans les douleurs, et j'avais au moins une dizaine d'opérations. Je ne compte plus après le dixième. J'avais une crise cardiaque, j'avais deux chirurgies sur mon dos, etc., etc. Mais je ne fais rien. J'ai l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité, là. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté. Pour qui espère en lui? Ah, la dernière phrase. Pour l'âme qui le cherche. Dans vos difficultés, dans vos problèmes, est-ce que vous cherchez vraiment la face de Dieu chaque matin? Merci. Oui, le pasteur.